c'est l'histoire d'un navet qui monte en fleurs, de l'apprentissage d'un cycle et d'un savoir-faire réapproprié, des semences paysannes et des maraîchers et maraîchères d'Alsace qui tentent de les apprivoiser. Graine à la graine, un podcast de l'Ardéa Grand Est, l'association qui promeut l'agriculture paysanne et de maraîchage sur sol vivant Grand Est, par Raphaël Tacard et Yola Serles. Épisode 1, sauver les semences paysannes.
Alors, ça c'est notre armoire à graines là, donc on stocke toutes les... En fonction de ce que c'est par ordre alphabétique, les aromates, les fèves, les courges, les carottes, les oignons. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est les potimarrons. Mais c'est un gros sachet.
Il y a une vraie notion de plaisir dans ce qu'on fait, quoi. C'est un métier plaisir, c'est un métier passion. Mais parce qu'on a plaisir à faire les choses et qu'on est fier de ce qu'on a fait, alors on est fier de le reproduire aussi et de se dire, bah, ça vient de nous, quoi. Et ça vient de nous parce qu'on l'a choisi et parce qu'on l'a goûté et parce qu'on peut assurer que c'est bon.
Une variété qu'on a expérimentée déjà, qui se garde bien, qui a un beau fruit, qui est très bonne.
Moi, je veux de la semence, tu vois, paysanne, des variétés anciennes, des légumes qui soient, entre guillemets, pas trop trafiqués, quoi, qui sont issus un petit peu de tout le savoir-faire paysan, la sélection qu'il y a eu depuis que l'homme fait de l'agriculture.
J'ai des blés anciens, j'ai du houblon, j'ai du sorgho, voilà, je m'intéresse aux variétés anciennes, donc je regarde comment ça se passe, voilà. Il faut rester très humble, hein. Il faut tenir compte des caractéristiques des plantes. Vous avez des plantes qui ne germent qu'au soleil, vous pouvez toujours les enterrer, il ne se passera rien, hein. Vous avez des plantes qui sont bisannuelles, donc vous les mettez en terre, il ne se passe rien, vous vous dites c'est râpé, et l'année suivante, coucou, mais voilà.
Gaston Riffel, membre de l'association Kerna und Zoma à Colmar.
Je traduis, hein, sous-titré, graines et semences. En alsacien. Donc Kerna und Zoma, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans par des paysans et qui regroupe des producteurs, des paysans boulangers, des transformateurs et des consommateurs. Ben, l'objectif est bien de sauver les semences paysannes, hein, et bien au-delà, c'est de maintenir la biodiversité. Donc nous sommes attachés à ce que les paysans puissent échanger leurs semences. En ce moment, nous avons un conservatoire de 40 variétés de blé ancien dans le Bas-Rhin et nous participons au troc de plantes en faisant des dons de semences. On a fait ça notamment à Münster, Winsenheim et Strasbourg. Je suis passionné par les variétés anciennes. Donc je dirais que je fais 85% d'observation et 15% d'intervention. Voilà. C'est vrai que ma femme me reproche d'avoir plus de graines dans mon jardin que de légumes. Voilà. Ce sont des expériences. Le fait de reproduire des graines est un art essentiellement technique. Donc c'est très difficile. Il ne faut pas se figurer qu'en ayant deux choux qui germent dans son jardin et qui produisent des graines, on va avoir des légumes qui correspondent à celui de départ. Hein. Puisqu'il faut un certain nombre d'exemplaires qu'il faut isoler. Alors, il y a des plantes pour lesquelles c'est facile. Les tomates, c'est facile parce qu'elles s'auto-fertilisent. Il y a d'autres plantes qui sont relativement faciles aussi, comme les céréales, parce qu'il y a à la fois les éléments mâles et femelles sur un plant. Et il y a des éléments pour lesquels c'est très très compliqué, les choux, parce qu'il y a des tas de crucifères qui sont sauvages. Évidemment, les abeilles, elles vont aller sur toutes les fleurs qui se ressemblent. Hein. Et en termes de complications, je crois que ce sont les cucurbitacées qui sont au sommet, parce qu'il faut veiller avant le lever du soleil à l'ouverture de la fleur, la polliniser avec un pinceau ou attendre qu'une abeille passe, et après se dépêcher de fermer la fleur pour éviter une deuxième pollinisation. Tout ça avec un nombre d'exemplaires, si on a recours aux abeilles, ben, il faut s'assurer que le voisin n'a pas des variétés de cucurbitacées de la même famille qui sont capables de croisement. On a beau semer une graine, elle va germer en fonction d'éléments externes, c'est-à-dire la lumière, l'humidité, la température, hein, et elle va croître en fonction du terroir et du climat. Donc ce n'est pas un modèle industriel, reproductible. Elle va évoluer dans un terroir donné, et on constate qu'on peut acclimater une plante au bout de 6 cycles de reproduction. Donc il faut au moins 6 ans pour qu'une plante résiste au climat local. On est là pour donner quelque chose aux générations qui nous succéderont. C'est essentiellement ça. Et il faut à tout prix maintenir ces variétés.
Et pourquoi sauver les semences paysannes ?
Ben parce qu'elles sont un peu en danger. Hein. Le domaine des semences est industrialisé, ce qui laisse apercevoir d'ailleurs les limites du process, si j'ose dire. Si on prend l'exemple, par exemple, du virus qui a attaqué une entreprise bretonne de tomates, hein, ça a décimé tous leurs fruits.
Nature au cœur profond sur qui les cieux reposent, nul n'aura comme moi si chaudement aimé la lumière des jours et la douceur des choses, l'eau luisante et la terre où la vie a germé. Anna de Noailles, l'offrande à la nature.
Une graine, c'est vraiment la graine, voilà, c'est le fruit du coup du légume. Et la semence, ça peut être quelque chose à partir duquel on refait un végétal. Donc ça peut être juste une racine que tu découpes pour la rhubarbe et puis qui repart. Du coup, la différence, elle est juste là, quoi.
Sophie Barnouin, animatrice à l'association Maraîchage sur sol vivant Grand Est.
Dans les semences, du coup, tu as les COV aussi, les certificats d'obtention végétale. Et donc ça, c'est des certificats, des sortes de brevets que mettent en place les semenciers qui ont pu travailler pendant des années pour obtenir une semence très particulière, avec des caractéristiques très particulières. Et dessus, ils posent un brevet, et celle-là, on n'a pas le droit de les reproduire. Mais du coup, tout ce côté-là, c'est des semences que nous, on ne va pas toucher. Mais ce n'est pas un côté que je critique non plus. Après, les semenciers, ils ont aussi un boulot où ça peut mettre 10 ans à obtenir une variété particulière. Et quelque part, moi, ça ne me choque pas qu'ils le monétisent, quoi. Ce qui serait choquant, ou ce qui est choquant dans le milieu de la semence, c'est quand on monétise des choses qui sont du vivant et qui n'ont pas besoin d'être monétisées, quoi. Et donc, il y a toutes ces parties, cette partie de semence population, celle-là, elle n'est pas monétisée. On a le droit de la multiplier, quoi. Et au-delà du droit, il y a un intérêt aussi pour les générations suivantes, c'est de dire on continue à faire vivre ce patrimoine génétique en faisant pousser la plante à partir de la graine, en la multipliant, en récupérant les graines. On fait en sorte que le patrimoine génétique ne s'épuise pas et puis on continue à produire ces graines-là, quoi. En fait, dans les semences, ce qui est beaucoup critiqué dans le grand public, c'est les semences F1. Et les semences F1, c'est des semences qui sont produites par des semenciers et qui sont dites non reproductibles. Elles ne sont pas reproductibles parce que F1, ça veut dire que c'est la première filiation, et qu'en filiation 2, donc F2, elles ne vont pas conserver leurs caractéristiques. Donc elles sont multipliables, mais il n'y a pas d'intérêt à les multiplier, parce que quand tu les prends en année 2, il y a un tel mélange de chromosomes que tu obtiens plus que tu avais en année 1. Et du coup, ça, les maraîchers, ils n'aiment pas. Alors, moi, je ne peux pas dire que je suis complètement contre, parce que ce n'est pas vrai. Ça apporte certaines choses, les semences F1, sauf que ça n'apporte pas de l'autonomie aux maraîchers. Et ce que moi, je trouve intéressant, mais c'est personnel, après, ce n'est peut-être pas partagé par tout le monde, c'est qu'il faut qu'ils puissent avoir accès à tout un pool de semences, dont des semences F1, s'ils le souhaitent, qu'ils leur coûtent cher, mais qui après, derrière, ils s'assurent des productions assez stables. Parce que c'est des... En tout cas, en année 1, en la filiation 1, ils sont sûrs d'avoir des légumes très homogènes, qui ont des caractéristiques qui ont été prédéfinies, qu'ils connaissent, quoi. Mais il faut aussi qu'ils puissent avoir accès à d'autres variétés qui sont des variétés population, qui sont moins stables, mais qui ont un patrimoine génétique qui est plus important, et qu'ils ont le droit de reproduire comme ça sans demander rien à personne. Est-ce que tu utilises des graines F1?
Non. Bah non, et là, tu peux pas le faire. Tu peux pas le Moi, je n'ai pas les moyens techniques de le faire. Quoi. Déjà, je ne saurais même pas comment faire pour l'instant. Et puis, c'est pas de. Tu vois, c'est pas mon trip.
Landry Martin, maraîcher bio au jardin, le voisin maraîcher à Ilzac.
Du fenouil, du persil. Je fais souvent les pépinières aussi. Donc là, tu as la pépinière de poireaux, tu vois, pour faire mes plants. Les F1, toute reproduction est interdite, quoi. Donc. Si tu veux en vendre, tu rentres quand même dans une dynamique de privatisation du vivant, finalement, quoi, tu vois. Parce qu'il y a des obtentions ou des brevets, voilà, qui sont sur ces variétés-là. Et moi, justement, tout le contraire, qui est ni brevet, ni obtention, et que la semence est puisse être distribuée, échangée, reproduite par n'importe quel kidam, quoi, enfin, voilà. C'est un bien commun, quoi, et puis c'est du vivant, et quelque part c'est à tout le monde, quoi. Alors ça n'empêche pas d'en faire commerce, mais voilà, quoi, qu'il n'y a personne qui se sucre après, et ou qui s'approprie, tu vois, certaines choses. Et puis il y a un enjeu de préserver certaines semences en culture, parce que là, ils te les gardent dans des frigos, je sais pas où, en Suède ou autre, mais. Tu vois, les graines, elles ont été stockées à un moment, mais le meilleur moyen de conserver une semence, c'est quand même de la récolter, de la ressemer l'année prochaine, et ainsi de suite, quoi. Tu vois, de préserver les variétés, parce que c'est aussi une biodiversité, en fait, hein, sur les espèces domestiques. Hein, c'est pas de la biodiversité sauvage, mais c'est de la biodiversité domestique, quoi. Et il y a quand même des tonnes de variétés qui existent, et tout ça, moi, je trouve que c'est quelque chose à préserver, à maintenir. Et voilà, moi, ma petite échelle, je fais un petit bout, quoi, tu vois. Je vais pas faire ça moi tout seul, évidemment, mais c'est presque le plus important, finalement, pour moi, quoi, tu vois. Pourquoi je le fais, quoi, tu vois. À la fois pour avoir une certaine autonomie financière par rapport à la semence, et puis, ouais, c'est tout le côté... Ouais, vraiment préserver, avoir des variétés qui s'adaptent au terroir local, et puis tout l'aspect autour des enjeux sur la semence, sur la privatisation du vivant. C'est un peu ma manière de militer, quoi, on va dire, quoi. Il y a eu un certain degré d'engagement, tu vois, dans tout ce que je fais, quoi, que ce soit sur la semence, mais que ce soit aussi, tu vois, sur la manière dont je cultive les légumes, quoi.
Produit 90% de ce qu'on plante en jardin, c'est nous qui faisons les replants. On n'achète pas des replants tout fait non plus. Donc les graines, c'est vraiment super important pour nous, quoi. Si on n'a pas de graines, on fait rien, quoi.
Bon, ça, c'est des graines de cébette, du coup, qu'on a reproduites l'année dernière. Donc la cébette, c'est un petit oignon qui ne bulbe pas, mais qui est récoltable en frais toute l'année. Donc il est assez extraordinaire. Donc c'est des petites graines noires, magnifiques, qui ont grandi sur des fleurs en forme de pompons.
Ariane Aubert et Julien Ouillot, installés en maraîchage bio à la ferme à part, à Mittelbergheim.
C'est trop pour le plaisir quand même de mettre la main dedans. Hein. On s'est aperçu qu'on ne faisait pas bien nos graines de haricots, donc on en a racheté cette année. On fera ça mieux l'année prochaine.
Tu vois, dans ce métier, t'as le plaisir de semer une graine, de faire pousser une plante, ça germe, ça lève, t'as une plante, c'est cool. Après, t'as le plaisir de planter ta plante et de la voir grandir, et c'est cool. Et après, tu vas la récolter, et c'est cool, et tu la manges ou tu la vends, et c'est cool. Et après, le fait de réussir à boucler la boucle et de revenir à une graine pour recommencer le cursus, c'est un plaisir global, tu vois, qui fait que t'as réussi à faire toute la boucle, quoi. Pour repartir et recommencer. Et puis, en plus, avec le nombre de variétés que tu as à faire, c'est un plaisir inépuisable.
Ouais, puis il y a des tas d'aspects là derrière. Hein. Enfin, après, on peut aller jusqu'à chercher de la philosophie, mais notamment un vrai sens politique à tout ça, quoi. Et je pense que les jardiniers inconsciemment le font, mais c'est fondamental en fait dans le geste de reproduire ses graines, d'être indépendant et de, en tout cas, de ne pas dépendre de l'offre. Et ça, maintenant, nous, on le confirme maintenant qu'on est professionnel et qu'il y a un enjeu. On s'aperçoit aussi qu'à travers les catalogues, on est dépendant d'une offre. Or, nous, on a une clientèle derrière, il y a des légumes qu'on aime bien produire, et si elle est pas dans, si il est pas dans l'offre et qu'on n'a pas ces semences, alors on ne peut pas les cultiver.
Toute la vente de plants, on a démarré la vente ce week-end. Et il y a encore ce week-end là où on vend des plants. Pour toute la partie hybride, donc on fait les deux, Sativa, et quand chez Sativa on ne trouve pas quelque chose qui nous convienne en termes de résultats, on travaille avec ProSem, ou pour mettre en comparaison, par exemple...
Louis Rivoire, maraîcher en biodynamie à la ferme Saint-Blaise, à Valfe.
Par exemple, chaque année, on fait du concombre long, classique, type hollandais, sous serre. Il y a une très bonne variété chez Sativa qui s'appelle Cléopha, qui est hyper satisfaisante, mais aussi une très bonne variété chez ProSem qui s'appelle Aramon, qui est un hybride. Aujourd'hui, on continue à faire les deux en parallèle parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même goût, mais les deux sont très bons, ils marchent bien sous serre. Donc on est tout le temps en train de voir comment on peut se passer des hybrides, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que la variété population est adaptée à nos besoins en termes de qualité gustative, bien sûr, mais aussi de tenue aux maladies, de rendement.
Il y a deux semaines, c'était plein à craquer.
Sur la ferme, pour l'instant, on récupère très peu de graines, sauf sur les céréales, sur l'orge. On a de l'orge pois qu'on cultive sur 4-5 hectares. Et chaque année, on récupère une partie de la moisson pour le ressemer pour l'année suivante. Pour les légumes, jusqu'à présent, on ne faisait aucune production de semences. On rachetait chaque année les graines chez Sativa, essentiellement. Parce qu'aussi, on a un bon lien avec Sativa, il y a un bel échange, enfin, c'est toujours des bons conseils et tout ça. C'est pas juste une relation commerciale, c'est vraiment presque un ami aussi. Il vient sur la ferme, on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Enfin, il n'y a pas de raison de se dire, non, aujourd'hui, je fais toutes mes graines parce que je ne suis pas satisfait de... Non, au contraire, on est hyper satisfait et ça marche bien. Et on va continuer là-dessus. Mais comment est-ce que nous, en tant que producteurs de légumes, on peut aussi... s'ouvrir à cette partie-là de notre métier, qui est la production de semences, même si c'est un métier quand même à part entière, on pourrait faire que ça. Donc nous, c'est pas le but, mais c'est est-ce qu'on peut mettre un pied dedans et commencer à s'autonomiser un petit peu sur ça, ou à accroître nos savoir-faire, mais sans d'un coup y passer 50% de notre temps, ni y consacrer X% de surface. Enfin, voilà, le but, c'est que ça reste rationnel, mais commencer quand même à mettre le pied dedans.
Parmi toutes nos cultures, le sorgho occupait une place à part. Il avait sa dignité. Il ne se mêlait pas aux autres. Il lui fallait sa propre parcelle, son champ bien à lui. Les colocases, les patates douces, le haricot, tous ces légumes, ils pouvaient bien cohabiter. Les rames des haricots s'agrippaient à la tige du maïs et les patates douces et les colocases s'abritaient sous la bananeraie. Personne n'y trouvait à redire. Ce n'est pas pour cela qu'on dédaignait les haricots, les patates douces ou le maïs. Qu'aurait-on mangé sans eux ? Comment satisfaire l'appétit d'un Rwandais sans sa portée quotidienne de haricots ? On m'a bien étonnée quand on m'a appris que les patates douces, le maïs, les haricots nous étaient venus d'Amérique. Quel chemin ces plantes avaient-elles suivi pour parvenir jusqu'au Rwanda ? Je n'ai jamais eu de réponse. En tout cas, nos grands-parents n'avaient pas eu besoin d'agronomes, d'experts de la FAO. Ils s'étaient débrouillés tout seuls, sans attendre qu'on vienne leur apprendre comment cultiver leur propre champ. La femme aux pieds nus, Scolastique Mukasonga.
Dès 1920, on a cherché à breveter le végétal. Ça ne date pas d'il y a 10 ans, à partir de 1920. On a fait un catalogue dans lequel on a dit Voilà, ces légumes-là sont reconnus officiellement, et tout le reste n'est que broutille et millevesée. Ensuite, on a réduit la vente à ces semences-là, et maintenant, avec un travail intensif et au niveau européen de lobbying, on réussit à faire en sorte que les gens puissent accéder aux semences paysannes, alors que l'industrie impose des semences qui viennent à 60% de trois semenciers. Mais les gens ont continué, si vous voulez, à faire des semences, mais on a mis un cahier des charges en place qui n'est accessible qu'aux industriels, en raison des frais d'enregistrement et du paiement d'une redevance, parce que la plante est protégée, enfin brevetée pour 25 ans. Hein. Et donc ensuite, on a imposé aux maraîchers d'utiliser uniquement des semences qui figurent en catégorie A, en liste 1 de ce catalogue officiel. Les pays voisins ont d'autres catalogues qui semblent beaucoup plus ouverts que le nôtre. Seulement pour comparer le nom des variétés, c'est un peu complexe. Mais c'est une voie pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il y aura bien un moment, un règlement européen, et donc il y aura bien un moment où ça sera ouvert. Donc pour l'instant, il y a des droits. Les paysans peuvent s'échanger les semences, donc ça c'est déjà un acquis. Ça a évolué récemment d'ailleurs, très récemment. Hein. L'agriculteur aujourd'hui peut échanger des semences non inscrites au catalogue hein, pour des travaux de conservation, de recherche ou de sélection et sélectionner et multiplier ces semences de variétés non inscrites, de les cultiver et d'en vendre la récolte. Les jardiniers peuvent échanger à titre gratuit ou onéreux des semences et plants non couverts par un droit de propriété intellectuelle. Il est prêté attention maintenant à l'utilisateur final des semences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'utilisateur final est un jardinier particulier ou une collectivité publique, la vente est possible. La commercialisation est possible.
Il y a toujours ce risque d'avoir une financiarisation, une privatisation aussi de cette matière végétale. Enfin, je veux dire, normalement, des semences, c'est censé être un bien commun. C'est des milliards d'années de sélection et d'évolution de la nature.
Romane Rose, animatrice à l'Art des Arts et à la Confédération Paysanne Grand Est.
On est censé tous et toutes utiliser, comme on le sent, en fait, des semences, sauf qu'en fait, c'est régi par des lois, par des entreprises qui veulent quand même détenir ce savoir-là, le privatiser, sous couvert d'avoir... la raison officielle d'avoir un catalogue qui recense des semences qui peuvent être commercialisées et pas d'autres, c'est d'avoir un produit qui est sain et qui ne risque pas, en fait, à la fois pour l'environnement, donc d'autres espèces végétales d'être contaminées, et à la fois pour l'humain, ne pas tomber malade ou avoir des conséquences sanitaires. Ça, c'est en fait... l'argumentaire officiel, mais l'autre, c'est qu'en fait, du coup, ça nécessite de breveter, ça nécessite en fait de mettre des royalties, de mettre des marques en fait sur des produits végétaux qui ne peuvent pas être commercialisés librement. En fait, c'est pas de la marchandise libre. Et donc, oui, c'est aussi d'ouvrir un petit peu les esprits là-dessus, en disant qu'on peut reprendre la main. Et donc, il y a des cadres légaux pour ça. Par exemple, là, c'est l'échange ne peut se faire que dans l'échange de l'entraide agricole. Et ça, c'est un contrat bien établi, en fait. Tout comme la commercialisation pour des consommateurs, il va y avoir tout un tas de règles aussi à suivre. Par exemple, le conditionnement et bien inscrire telle ou telle référence. Et un autre sujet aussi qui redevient d'actualité, c'est par exemple tout ce qui est OGM. Et il y a eu des grandes batailles menées par le syndicat là-dessus pour lutter contre les OGM, contre la modification des organismes. Parce qu'en fait, on ne sait pas, on joue avec la nature et on joue avec du coup des conséquences qui sont complètement au-delà du contrôle de l'homme. Et donc là, il y a une deuxième salve de réflexion qui est en cours en Europe, là, en ce moment, pour essayer de relancer des OGM, mais sous un autre nom. Donc en fait, c'est un combat qui est infini.
Il faut faire en sorte que les paysans puissent utiliser leurs propres semences et les échanger et les vendre. Parce que les semences sont un bien commun hein, et qu'ils arrivent également à les mettre à disposition des jardiniers, le cas échéant. Hein. Donc la première étape est la multiplication. La deuxième, c'est l'échange. Et l'échange, c'est y compris l'échange d'expérience. Hein. j'ai fait ça, ça n'a pas bien marché, j'ai fait ça, mais je pense qu'il faudrait modifier le terrain, ou voilà. Et c'est comme ça qu'on avance, et que, voilà. Parce que c'est un sport collectif, hein, la production de graines. C'est pas, on n'est pas dans son coin tout seul, là. Il faut aller voir le voisin, lui signaler ce qu'on voudrait faire, demander ce que lui fait. Et puis quand on a des graines, on en a tellement qu'on donne, parce qu'on ne pourra jamais les utiliser. On peut les échanger à la limite dans un troc de plantes, hein, mais voilà, donc c'est social, c'est convivial, et c'est utile à l'humanité. C'est la survivance de l'humanité.
C'était Graine à la graine, un podcast de l'Ardéa Grand Est et de MSV Grand Est, réalisé par Yola Serles, à la prise de son et au montage, Raphaël Takar. Avec le soutien financier de la Fondation Carasso, de l'association Gerdal, de la DRAF et du Conseil Régional Grand Est. Merci à Ariane, Julien, Gaston, Landry, Louis, Romane et Sophie.